Radio Capi.
Oh, Capi. Le journal avec Pierrot et la Mégie à la présentation.
Mesdames, Messieurs, voici les titres de votre journal. C'est en républicain que je suis venu répondre à l'invitation du chef de l'État et qu'il faut aller de l'avant car la RDC a besoin de réformes. Ces propos sont des Pius Mwabilou, président du Congrès national congolais et autorité morale du regroupement politique AA, après avoir été reçu par le chef de l'État dans le cadre des consultations. Pour mettre fin à la grève des enseignants et permettre aux élèves de reprendre le chemin de l'école, les parents d'élèves de la sous-division de l'EPST qui sont bureaux dans le territoire de l'Ubéro décident de payer les frais de motivation aux enseignants nouvelles unités. Une décision saluée par la section locale de SIECO. Notre invité, c'est David Gressley, représentant spécial adjoint en charge des opérations de la MONUSCO. Après une mission à Pinga dans les territoires de Walikale, il nous parle de ce qu'il faut faire pour restaurer la stabilité dans cette région. Vous le suivrez avant la fin de ce journal. Mesdames, Messieurs, bienvenue à toutes et à tous. Un des poids lourds du FCC reçu par le chef de l'État dans le cadre des consultations ce mercredi. Il s'agit de Pius Mwabilou, président du Congrès national congolais CNC et autorité morale du regroupement politique AAA/A. C'est un républicain qu'il est venu répondre à l'invitation du chef de l'État, a déclaré Pius Mwabilou. Et le ministre d'État a souligné qu'il faut aller de l'avant. Les réformes, il faut le faire dans ces pays. On écoute Pius Mwabilou au micro de Jacques-Yves Molima.
Comme républicain, je suis venu répondre à l'invitation du chef de l'État pour échanger sur les questions qui concernent l'avenir de notre pays, l'avenir de notre peuple, le bien-être de notre peuple et le développement de notre pays. Ce n'est pas un problème de liberté, c'est un problème de bon sens. Lorsqu'on a été élu 3 fois dans ce pays comme député national, 20 ans à l'Assemblée nationale, avec les responsabilités qui sont les miennes, on enlève la casquette personnelle pour porter la casquette de notre peuple. Il faut privilégier l'intérêt général à l'intérêt personnel. Je ne peux pas vous dire ce que j'ai échangé avec le président de la République, mais je peux vous dire que nous avons échangé sur des questions très importantes qui concernent l'avenir de notre peuple. Il faut aller de l'avant, les réformes, il faut en faire. C'est très nécessaire. Et je vous dis que comme républicain, je suis venu répondre à son invitation et ça valait la peine.
Il faut signaler que le principal allié à la coalition CASH, à savoir l'UNC, a été aussi échangé avec le chef de l'État ce mercredi. D'après le secrétaire général de l'UNC, Aimé Bogi, ils ont parlé avec le chef de l'État de toutes les questions, y compris la situation de son leader Vital Kamerhe. Et il dit attendre avec impatience ce que dira le chef de l'État à l'issue de ces consultations. Les deux ministres empêchés hier mardi de se rendre en mission de service à l'intérieur du pays n'avaient pas respecté les procédures légales en la matière. La précision vient de la présidence de la République. Pour rappel, le ministre Nene Nkulu, en charge de l'emploi, travail et prévoyance sociale, et son collègue Willy Kitobo des mines avaient été empêchés hier à l'aéroport d'Injili de quitter la capitale pour se rendre en province. Une affaire qui a été diversement commentée, notamment dans les réseaux sociaux. Qu'en est-il, Jacques-Yves Molima?
D'après les sources de la présidence contactées par Radio Capi, l'ordonnance loi du 27 mars 2020 portant organisation et fonctionnement du gouvernement est claire en cette matière. Elle stipule que tout déplacement des membres du gouvernement, y compris les premiers ministres, doit être signalé au préalable à la présidence de la République. L'article 34 alinéa 2 stipule que les missions des autres membres du gouvernement sont subordonnées à l'obtention d'un ordre de mission signé par le premier ministre. Et à l'alinéa 6, il est spécifié que le président de la République est informé avant le début de la mission ou du déplacement privé des autres membres du gouvernement. Notre source à la présidence affirme qu'en ce qui concerne le déplacement de ces deux ministres, la présidence de la République n'étant pas informée, les services de la DGM étaient en droit de faire respecter ces dispositions en empêchant les deux membres du gouvernement de quitter Kinshasa. Il n'y a pas matière à polémiquer là-dessus ou à politiser cette affaire, renchérit notre source. Rappelons que les ministres Nene Nkulu et Willy Kitobo devraient effectuer une mission de service respectivement à Kalemi et à Kisangani via Goma.
Merci beaucoup, Jacques-Yves Molima. Rendons-nous maintenant au Sud Kivu, où le ministre provincial de l'Intérieur et son collègue de la Santé se sont présentés ce mardi devant les députés provinciaux à l'Assemblée provinciale. C'était dans le cadre de l'interpellation formulée par quelques députés. Le ministre de l'Intérieur, Lwambanji Lwasingabo, a été entendu sur ses responsabilités dans l'installation du bourgmestre de la commune rurale de Minembwe, tandis que son collègue de la Santé s'est exprimé sur la gestion de la COVID-19 dans la province. Un reportage de Jean Kassami, qui a suivi le déroulement de la plénière hier à l'Assemblée provinciale du Sud Kivu.
Les élus provinciaux du Sud Kivu recommandent au ministre de l'Intérieur de procéder à l'annulation par écrit du procès verbal qui avait installé Mukiza Zabine Chagadi, bourgmestre de la commune rurale de Minembwe. Le ministre Loi Bandiloa Singabo a reconnu avoir procédé à la lecture du dit procès verbal parce que la loi autorise la création de nouvelles communes, 27 pour le Sud Kivu, y compris celle de Minembwe. Une dizaine de députés se sont succédés au perchoir avec des questions adressées au ministre interpellé.
Notre initiative, monsieur, c'est d'annuler le procès verbal. Faire tout moyen possible pour nous présenter l'acte d'annulation, pas la lettre d'information.
Plusieurs questions ont consisté à savoir si le bourgmestre de Minembwe fournit réellement les rapports sur son entité à l'administration provinciale. Dans l'affirmatif, les députés s'interrogent alors en quelle qualité une autorité communale qui n'était pas encore installée officiellement pourrait soumettre un rapport qui soit recevable par la hiérarchie. Loi Bandiloa Singabo a sollicité un délai de 3 jours avant de venir répondre aux préoccupations formulé par les élus provinciaux. Bukavu, Jean Kassami, Radio Okapi.
Le gouverneur de la province de Maniema vient de tomber par le vote d'une motion de défiance initiée par le député Bouchiri Makula Corneille, élu du territoire de Kailo. La motion a été votée par 15 voix contre 6 de 21 députés présents ce mercredi à la plénière sur le 22 que compte cette assemblée. Florence Kizalunga pour les détails.
C'était au cours de la plénière de ce mercredi 11 novembre que 15 députés sur les 21 présents à cette plénière sur le 22 que compte la province du Maniema ont voté pour le départ du gouverneur de province Moussafiri Nkola Myoma Ogi, comme l'a dit ici la présidente de l'Assemblée provinciale du Maniema, Jacques Kitembompala.
15 députés ont voté pour que Tenas Moussafiri quitte ce conseil. 6 ont voté contre son départ et aucun député ne s'est abstenu. Par conséquent, Son Excellence, Monsieur le Gouverneur des provinces, Moussafiri Nkola Myoma, est déchu de ses fonctions.
Mais qu'est-ce qui est reproché à Moussafiri Nkola Myoma Ogi? Élément de réponse est avec le député Bouchiri Makula Corneille de la circonscription électorale de Kailo.
Manque de leadership responsable pour la mégestion à outrance et le détournement sans précédent des finances publiques ainsi que le tribalisme et clientélisme comme mode de gestion.
Signalons que cette motion est votée pendant que le gouverneur est à Kinshasa pour une mission de service. Kindu, Florence Kizalunga, Radio Okapi.
Les responsables des entités territoriales décentralisées sont depuis 3 jours en formation de renforcement des capacités. Ils apprennent comment gérer la redevance minière. Cette rencontre se tient dans la ville de Kolwezi, dans le Lualaba. Elle réunit certains responsables des entités territoriales décentralisées impactées par l'exploitation minière du Haut-Katanga, du Nord et du Sud Kivu, ainsi que du Lualaba. Organisée par le gouvernement provincial du Lualaba, en collaboration avec la coopération technique allemande, cette formation accueille aussi les membres de la société civile. Jean Andou.
Pour les participants, cette formation tombe à point nommé. Et pour cause, plusieurs personnes ont dénoncé la mauvaise gestion de la redevance que les entreprises minières payent aux entités dans lesquelles elles sont implantées. Surtout que la plupart des bénéficiaires n'ont pas été formés en cette matière. Pour le bourgmestre de la commune de Kampemba, qui est un des participants, cette formation va apporter un plus dans la manière de gérer ces fonds en mettant les communautés au centre de toute action. Eric Tutewalomba.
Les bénéficiaires de cette taxe, c'est la population. L'argent de redevance minière, ce n'est pas l'argent de nous, les autorités locales de gérer ça en privé. On doit beaucoup travailler pour que la population trouve son rôle.
La société civile, qui se trouve parmi ceux qui ont décrié la gestion opaque de ce fonds, salue cette initiative et permet aux participants d'établir sur cette question qui a longtemps divisé la société civile et les gestionnaires de ces fonds. Mike Lemeki, de la nouvelle société civile du Lualaba.
C'est un rendez-vous assez important. Ça nous permet aussi de briser la glace qui existe entre la société civile et les animateurs des esprits. Nous voudrions parler le même langage pour qu'enfin nous puissions accompagner ces ETD à bien gérer les fonds qui leur sont donnés pour développer leur volonté.
Commencée le lundi dernier, cette formation va se clôturer le vendredi prochain. Lubumbashi, Jean Gandou, Radio Okapi.
Il est 19h10 au Nord Kivu où nous poursuivons ce journal dans le territoire des Loubéraux où les parents d'élèves de la sous-division de l'EPST Kisombiro décident de payer les frais de motivation aux enseignants nouvelles unités. Ces frais qualifiés des frais de soutien à la gratuité de l'enseignement. Cette décision a été prise lundi à l'issue des assemblées des comités des parents tenues dans plusieurs écoles de la place. Le syndicat national des enseignants du Congo, SIECO, section locale, salue cette décision qui, d'après son secrétaire permanent, va suppléer à la situation des nouvelles unités en attendant leur prise en charge par le gouvernement. Grâce à Mzati pour les détails.
D'après le président de l'Association nationale des parents d'élèves du Congo, Anapeko Kitsombiro, la décision de motiver les enseignants a pour but de sauver l'éducation de leurs enfants. Mwindo Malengera Diedone précise que ces frais seront fixés dans un commun accord entre les comités des parents et les responsables de chaque école. Pour sa part, le chef de la sous-division de l'EPST Kitsombiro Kasere Katahoya désapprouve cette démarche. Selon lui, seul le gouverneur peut décider à travers un arrêté de la fixation des frais scolaires. Pendant ce temps, le syndicat national des enseignants du Congo, section de Kitsombiro, se réjouit de la décision des parents. Gédéon Kambale Muhima, son secrétaire permanent, affirme avoir participé dans l'une de ses assemblées générales. Il ajoute que les enseignants seront réunis incessamment pour se décider de la reprise normale des activités après plusieurs semaines de grève de soutien aux nouvelles unités. Les Sieko Kitsombiro invite tout de même le gouvernement congolais à prendre ses responsabilités en main. Boutembo, grâce à Mzati, Radio Kapi.
Des organisations de la société civile de la province du Kasaï s'inquiètent des conditions de traversée de la rivière Kasaï depuis que le pont où j'étais sur ses cours d'eau s'est effondré. À en croire le cadre des concertations de la société civile de Chikapa, les habitants de la ville qui doivent se déplacer d'une rive à l'autre de la rivière sont obligés d'utiliser des pirogues, ce qui pose des problèmes de sécurité notamment pour les enfants. Le gouverneur du Kasaï assure pourtant que deux embarcations ont été louées pour assurer une traversée sécurisée. Suivez les explications de Joël Bofengo.
L'effondrement du pont Kasaï en octobre dernier complique les déplacements dans la ville de Chikapa. Tous les matins, employés, commerçants, élèves et étudiants habitant la commune de Kele sont obligés de trouver un moyen pour traverser la rivière et s'y rendre au centre-ville. Le secrétaire exécutif du cadre de concertation de la société civile de Chikapa, Edi Mbonge, révèle que ce sont les pirogues qui sont utilisées pour assurer cette traversée.
Ils traversent par pirogue. Hein. Ce sont les individus qui ont mis sur pied leurs pirogues qui font traverser. C'est une situation vraiment difficile qui risque d'aboutir à des naufrages et à beaucoup d'autres situations qui ne sont pas acceptables.
Actuellement à Kinshasa, le gouverneur du Kasaï affirme pourtant que son gouvernement avait déjà pris des dispositions pour permettre une traversée sécurisée des personnes. À en croire Dieudonné Piémé, deux embarcations sont louées pour assurer les transports des personnes.
Je vous confirme que les embarcations louées par le gouvernement provincial sont bel et bien opérationnelles. Moi-même, je ne suis pas à Chikapa maintenant, je ne peux pas affirmer que ce que vous dites, ces personnes disent là, est vrai. Maintenant, si vous me dites qu'il n'y en a pas et que vous en avez des preuves, sur votre dénonciation, je vais faire vérifier ça par mes services.
Après l'effondrement du pont Kasaï, les opérateurs économiques avaient attiré l'attention des autorités sur les conséquences de cet accident sur les activités dans la ville de Chikapa. De Kananga, Joël Bofengo, Radio Kapi.
Parlons insécurité dans ce journal avec la hausse de la criminalité urbaine depuis deux semaines à Beni. Des bandits armés cambriolent des maisons, voire même des églises. Beaucoup parlent déjà des conséquences de l'évaluation des détenus de la prison de Kangbaï. La société civile de Beni et l'appel le conseil urbain de sécurité à redoubler d'efforts pour sécuriser la population et ses biens. Marc Marofimbo pour les détails.
Les quatre communes de la ville de Beni sont touchées par cette recrudescence de la sécurité. En trois jours seulement, de lundi à ce mercredi, ils ont opéré dans les quartiers Malepe en commune de Béou, en vandalisant même la paroisse catholique de la place. Ils ont également cambriolé plusieurs maisons dans les quartiers Tamende vers l'ouest de la ville ainsi que certaines cellules de la commune de Moulekera. Les responsables de la sous-station de la RTNC Beni en a été victime. Le président du consortium des confessions religieuses de la ville et territoire de Beni parle des conséquences de l'évasion massive des détenus de la prison de Kangwai fin octobre. Bishop Janvier Baraka.
La situation que nous sommes en train de vivre actuellement, c'est la conséquence de l'évasion de plus de 1300 prisonniers à Kangwai. Que l'autorité puisse prendre ses responsabilités.
Préoccupée, la société civile urbaine demande au comité urbain de sécurité de mettre toutes ces batteries en marche afin que les enquêtes soient diligentées pour mettre la main sur les auteurs de ces actes. Kizito Binhangi.
Les services de sécurité, ici nous voyons la police, doit nous aider à diligenter les enquêtes pour dénicher et découvrir les auteurs de ces barbaries pour que ces auteurs soient déférés devant la justice.
Pendant ce temps, la police dit avoir ouvert des enquêtes pour mettre la main sur les auteurs de ces actes de sécurité. Elle souligne même que certains suspects sont déjà aux arrêts. Beni, Marc Marofimbo, Radio Kapi.
Actualité internationale.
En Libye, une célèbre avocate a été abattue mardi des 30 balles tirées à bout portant en pleine rue Bouakrine, l'une des plus grandes artères commerciales de Benghazi. Anan al-Barassi était une figure de la cause des femmes et de la lutte contre la corruption en Libye. Son meurtre provoque une grande émotion dans le pays. Cette avocate avait toujours refusé de se taire devant les crimes, les auteurs et la logique des bandes armées, malgré les menaces de mort que ces dernières lui avaient adressées à plusieurs reprises. Pour la première fois depuis le scrutin du 31 octobre, le gouvernement ivoirien a dressé un bilan des victimes liées aux troubles pré- et post-électoraux. Le porte-parole du gouvernement Sidi Touré indique que 85 personnes ont été tuées, dont 34 avant l'élection, 20 le jour du scrutin et 31 personnes après l'élection. Ce bilan fait également état des 484 blessés. Les localités affectées par ces violences sont essentiellement Dabou, Divo, Dokrou, Yamoussoukrou, Bouguanou et Toumoudi. Le ministre de la Communication a également annoncé que 225 personnes ont été interpellées. L'opposition, elle, avait dressé, après le vote, un bilan d'une centaine de morts directement liées à la crise électorale.
L'invité.
Pour restaurer la stabilité dans la région d'Épinga, dans les territoires de Walikale, il faut une conjugaison d'efforts militaires, mais aussi humanitaires et de développement. C'est ce qu'a affirmé le représentant spécial adjoint en charge des opérations de la MONUSCO, David Kresley. C'était jeudi dernier, à l'issue de sa visite à Épinga, à la tête d'une délégation des différents bailleurs de fonds, y compris l'ambassadeur du Royaume-Uni, le PNUD et la Banque mondiale. David Kresley a reconnu que la MONUSCO, le gouvernement et d'autres partenaires ont encore un grand travail à faire dans cette région. Il s'entretient avec Sif Amagourou.
Monsieur Gressley, bonjour.
Oui, bonjour.
Vous avez déjà visité Épinga plusieurs fois. Aujourd'hui, vous y avez amené une forte délégation mixte. Pouvons-nous savoir pourquoi?
Well, en fait, nous savons que ce n'est pas seulement une question d'une force militaire qui est nécessaire pour rechercher la paix ici et surtout la stabilité. C'est aussi important d'avoir nos partenaires dans le développement et aussi dans l'assistance humanitaire, d'être aussi impliqués dans ce travail. Donc nous sommes venus avec des personnes importantes, surtout de la Grande-Bretagne, qui sont là pour examiner de ce qu'ils peuvent contribuer aussi à la paix, soit ici à Épinga, mais aux alentours, mais un peu partout dans le petit nord.
Alors vous avez eu un briefing avec les militaires, les casquets bleus, vous avez échangé avec différentes couches de la population, les humanitaires. Comment personnellement vous appréciez l'évolution de la situation sécuritaire et humanitaire de la région?
Ça commence à évoluer dans la bonne direction, mais il y a beaucoup de travail à faire. Cette zone reste toujours enclavée, qui empêche aussi l'accès pour la sécurité, pour l'assistance humanitaire, pour le développement. Il y a toujours un manque de services de l'État, comme les écoles, aussi pour la santé. Donc il y a beaucoup de choses à faire pour un retour à une vie normale ici. Même pour aller dans les alentours où il y a toujours des groupes armés, ça pose un problème pour la population, pour aller au champ, par exemple. Donc, nous devons renforcer, à mon avis, notre engagement ici. On doit rester pour la durée et faire un plaidoyer avec nos collègues dans le gouvernement et nos partenaires pour vraiment faire ça ensemble. Mais ce qui est important ici, et ce que j'ai bien noté ici, c'est le fait qu'il y ait un bon esprit de coopération. Et je crois que ça, c'est fondamental. Avec ça, on peut aller plus rapidement et on peut achever des résultats plus durables.
Et qu'allez-vous faire par rapport à toutes les préoccupations, les demandes qui vous ont été présentées, le processus d'EDR, l'encadrement des jeunes, la réhabilitation des infrastructures? Qu'est-ce que cette population peut attendre de vous?
En fait, nous avons discuté avec mon collègue général le problème d'enclavement. On va commencer une reconnaissance de la route qui est la route la plus importante qui mène vers Épinga la semaine prochaine pour voir de quoi on peut faire pour ouvrir cette route. Ça va prendre un peu de temps, mais on va commencer le travail ce mois-ci. Donc, je crois que ça, c'est un. Deuxièmement, pour l'aspect DDR, on attend toujours la nouvelle structure par le gouvernement pour la mise en œuvre de ces programmes. Nous sommes prêts. Nous avons le financement, la logistique, aussi les moyens techniques pour aider ce programme. Et une fois que c'est élaboré, formulé et présenté à nous, nous sommes prêts de accompagner ce nouvel processus de DDR. Et j'espère bien que ça va venir très bientôt. En attendant, on va toujours travailler avec les communautés localement. S'il y a des personnes qui viennent, des ex-combattants, qui sont intégrés dans la communauté. J'espère bien que nos projets communautaires vont pas seulement bénéficier la communauté ici, mais aussi ces personnes en même temps. Donc, je crois qu'on peut faire certaines choses dans une manière provisoire en attendant cette nouvelle structure. Et après, on va aller rapidement avec ce processus de DDR.
Alors, pour terminer, quels sont les défis auxquels fait face la MONUSCO actuellement pour pacifier cette région?
Comme pour tout le monde, l'accès est peut-être la facture la plus importante. C'est pourquoi on donne une priorité à ça. Deuxièmement, c'est une zone pas seulement difficile à accéder, mais c'est très montagneuse. Donc, ça aussi pose un problème pour une action militaire. Et aussi, nous ne sommes pas très nombreux. Donc, on doit faire avec le nombre des éléments, des effectifs que nous avons. Merci bien.
Merci beaucoup, monsieur.
Merci bien.
Mimi Kindo a mis en nom de ce journal coordonné par Noëlla Aluzitu sous la supervision d'Axel Gontour. N'oubliez pas que toutes nos informations sont sur www.radiocapi.net.